Merci donc au colonel Martin Kodjo-Amouzou pour ce tour d'horizon de l'actualité militaire dans le pays. Cela nous conduit tout droit à la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Et avec votre permission, nous allons l'ouvrir ici à Bukavu, car c'est la toute première fois qu'en 15 ans de MONUSCO, une conférence de presse des Nations Unies est organisée en direct un mercredi avec l'ensemble du réseau national de cette conférence de presse qui d'habitude réunit seulement les journalistes de Kinshasa et de Goma. Nous allons donc rester ici à Bukavu pour la première question et je vais signaler que nous avons sur cette table le directeur, le chef du bureau de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu, qui est le tout nouveau chef de bureau, donc monsieur Charles Frisby, qui est à ma gauche ici et qui pourra donc éventuellement répondre à des questions de la province du Sud Kivu. Il y a quelques chef de département et de section de la MONUSCO du Sud Kivu ici également dans la salle. Si besoin est, il pourrait intervenir pour éclairer donc la lanterne des différents journalistes, essentiellement de Bukavu et pourquoi pas au niveau national. Première question donc ici à Bukavu, le micro est donné donc à ce monsieur. Vous allez vous présenter et poser une question. Prenez le micro.
Oui, je suis Janvier Baraïga, je suis de la radio-télévision Goma Kivu. Je m'adresse à Florence de Kinshasa. Je vais dans l'environnement où elle a parlé de 5 millions de dollars pour la lutte contre la coupe illicite de bois en RDC. Je me rappelle autour de discussion de la COP21, la RDC avait demandé comme besoin 21 milliards 6 millions de dollars américains. Mais en fin de compte, il s'est montré que la voix de la RDC était aussi basse. Je demande à la MONUSCO pourquoi donner 5 millions de dollars au lieu de faire des plaidoyers au niveau international pour la protection de ces forêts au niveau des Nations Unies. Merci.
Florence, je crois que vous avez entendu la question. Quelques éléments de réponse ou d'appréciation par rapport à la question de Bukavu?
Oui, alors d'abord une rectification. J'ai parlé d'un accord de financement de 200 millions de dollars entre la République démocratique du Congo et de Central African Forest Initiative. C'est un premier pas, c'est une première étape suite à la signature donc de l'accord de Paris. Une signature, et Charles, vous l'avez mentionné, à laquelle a participé le président de la République démocratique du Congo au siège des Nations Unies la semaine dernière. Et c'était aussi un geste important, très symbolique, puisque d'avoir la RDC parmi les premiers signataires de cet accord de Paris, en raison de l'énorme potentiel à la fois au niveau des forêts et au niveau du bassin hydrographique de ce pays. Donc, c'est un premier. Et comme je l'ai précisé aussi, la RDC est le premier des 6 partenaires africains centraux à s'engager dans cette lutte contre la déforestation. Donc, la RDC est très bien engagée et avec le soutien de la communauté internationale, des Nations Unies, eh bien, tout va être mis en œuvre afin de protéger les forêts.
Tout à fait. Nous allons rester toujours à Bukavu pour prendre une deuxième question. Vous vous présentez, peut-être là, sur ma gauche, effectivement.
Merci de la parole. Je m'appelle Badi Banga Poivre d'Arvor. Je suis journaliste à Mama Radio et je suis en même temps de l'Union africaine, de reporter volontaire pour l'ONU. J'ai une seule question. Je l'adresse à M. le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu. Parce que l'on parle de la stabilité sous l'angle politique, j'aimerais savoir que vous inspire justement ces contradictions incessantes qui caractérise la classe politique congolaise aujourd'hui autour du dialogue politique en vue. Avez-vous le bon espoir que ce forum sera tenu au nom de la paix à cette allure? Merci.
Je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse. Vous allez ensuite consulter. Il s'agit en réalité, cette question se pose en réalité au niveau national, c'est pas seulement au niveau de la province du Sud Kivu. Et donc nous voulons dire ceci, depuis pratiquement l'année dernière, la MONUSCO s'est engagée à appuyer le processus politique ici en RDC. Nous y avons différentes séquences de l'intervention de la MONUSCO et des Nations Unies en général dans ce processus-là. Vous savez que récemment, il y a quelques mois, Ban Ki-moon est passé ici et a encouragé à la tenue du dialogue national et cette position a été réaffirmée par la résolution 2277. Et donc, nous nous employons donc à encourager les efforts entrepris dans ce cadre par l'Union africaine, par l'intermédiaire de son facilitateur Edem Kodjo, pour appuyer effectivement les efforts de la communauté internationale en vue d'amener les acteurs politiques congolais donc à se parler autour d'un forum et puis à échanger enfin de se mettre d'accord sur la feuille de route politique. Quant à la province ici, c'est vrai que non seulement au niveau national il y a les bons offices, mais je suis sûr qu'au niveau provincial il y a également des bons offices qui se passent ici et je vais laisser la parole à M. Charles Frisby.
Oui, donc merci beaucoup. Pour répondre, je peux commencer par dire que la démonstration qui s'est passée le dimanche ici à Bukavu s'est passée d'une manière paisible, donc ça m'encourage parce que votre question a mis en question la stabilité. Deuxièmement, et suite aux mots de mon collègue, avec les petits financements que nous avons avec les QIPs, Quick Impact Projects, on va faire des efforts encore une fois en anglais, outreach, pour encourager le dialogue politique. Ces projets vont bientôt être déployés, surtout avec les organisations de la jeunesse, pour encourager ce dialogue. On va faire tous les efforts que ça continue d'une manière très très stable. À côté de ça, bien sûr, on fait tous nos efforts pour maintenir la sécurité. Je viens d'arriver ici dans la province et à mon avis, la MONUSCO a eu beaucoup de succès en termes de renforcer la sécurité et la stabilité ici dans la province. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Avec votre permission, nous allons nous rendre directement à Kinshasa. Nous allons prendre deux questions. Kinshasa, c'est à vous.
Ok, nous allons commencer par la droite. On reviendra par... Oui, donnez le micro là, oui, au fond. Une seule question, s'il vous plaît.
Merci beaucoup pour la parole. Théodore Gandou, au compte de Télé 7. Je pose la question à José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour qu'il nous dise un peu comment... le bureau conjoint des Nations Unies a-t-il réagi aux manifestations publiques en rapport avec le 26e anniversaire de la démocratisation de la RDC, les manifestations qui, selon une frange de l'opposition, ont été réprimées dans les Haut-Katanga. Comment le bureau conjoint réagit-il à ces situations?
Merci beaucoup pour la question et bonjour à tous les amis de la presse. Du côté des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, on a fait une évaluation globale de ce qui s'est passé le week-end. On peut dire d'une manière positive qu'il y a eu les manifestations APC à Goma, à Bukavu et à Kinshasa. Ce sont les bonnes nouvelles. Et de l'autre côté, on a montré une préoccupation pour ce qui s'est passé à Lubumbashi. Notre bilan provisoire des personnes arrêtées pendant, après et avant les manifestations, c'était de 12 personnes. À ce moment, on pense qu'il y a encore au moins 7 personnes qui sont encore emprisonnées. Donc il y a au moins encore 4 ou bien 5 qui ne sont pas encore être passés à la disposition du parquet. Et ça nous préoccupe parce que l'utilisation est excessive et abusive de l'arrestation arbitraire contre les sympathisants, les membres de l'opposition, c'est une violation grave des droits de l'homme. Les enquêtes continuent, comme vous savez. Savez déjà, il y a des allégations des allégations de répression, de manifestations, d'images. Et les enquêtes continuent pour déterminer exactement à quel grade était l'usage de la force, que notre évaluation provisoire, c'était que c'était excessif, mais il y a aussi des autres allégations que nous sommes en train de confirmer ou non. Merci.
Deuxième question pour Kinshasa, je suppose. Il y avait une main ici. Oui, ici, s'il vous plaît. Le micro.
Merci pour la parole. Lou Di Cardozo, pour le compte du journal Les Potentiels. J'adresse ma question à Charles Bambara. Les membres du G7 demandent à la MONUSCO d'assurer la protection de Moïse Katumbi, leur candidat à la présidentielle 2016, qui fait l'objet, selon eux, de menaces ces derniers jours. Qu'en dites-vous?
Merci pour la question. Il se trouve que le mandat de la MONUSCO est globalement clair sur un certain nombre de points, notamment sur la protection des civils, et que ces civils soient de la majorité présidentielle ou de l'opposition, si nous devons les protéger, nous les protégerons. Déjà, vous vous rappelez que dans la résolution 2277, le Conseil de sécurité, en adoptant cette résolution, avait émis un certain nombre de préoccupations. Et je vais vous lire d'ailleurs un article de cette résolution 2277 qui dit ceci notamment. Le Conseil exprime sa vive préoccupation face au rétrécissement de l'espace politique dans le pays, de la RDC donc, qui s'est traduit par les récentes arrestations et détentions des membres de l'opposition politique, des représentants de la société civile et par des restrictions imposées à des libertés fondamentales comme la liberté d'expression et d'opinion. Je crois que nous nous situons un peu dans ce cadre-là. Et comme je dis, par anticipation, le Conseil de sécurité, déjà avec les premiers signes qu'il avait remarqués, avait tenu à mettre ce point clairement inscrit dans cette résolution. Nous nous inscrivons donc dans ce cadre et vous savez que lors de la manifestation de Lubumbashi, effectivement, comme l'a dit mon confrère José Marais, il y a eu quelques préoccupations au niveau des problèmes de sécurité par rapport aux militants qui essayaient d'organiser leur meeting politique. Et nous étions là. Et la présence dissuasive, j'allais dire, des confrères de la MONUSCO sur place à Lubumbashi a peut-être permis d'éviter le pire. Hein. Donc nous allons continuer à assurer par notre présence effective dans différents lieux pour dissuader un peu les forces de sécurité qui ont un devoir, c'est vrai, de contrôler les excès éventuels de la foule. Nous allons essayer par notre présence donc de dissuader un peu, j'allais dire, tout excès, tout excédent en matière de contrôle et de contrôle de foule. Et c'est vrai que nous avons reçu cette requête et nous allons, comme j'ai dit, veiller méticuleusement. Une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est monsieur un tel ou madame une telle que les personnes, soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, si ce rôle de protection ou ce rôle d'encadrement est nécessaire, la MONUSCO répondra présent car c'est notre devoir et comme je l'ai dit, c'est inscrit donc dans les textes ou dans les feuilles de route que nous donne le Conseil de sécurité. Merci donc, ça fait deux questions à Kinshasa je crois. Nous allons passer à Goma pour prendre deux questions également avant de revenir ici à Bukavu. Goma, c'est à vous.
Par la gauche, madame, allez-y.
Rosane Calafolo, reporter à la radio Polyfem. Ma question, je l'adresse à madame Florence à Kinshasa. La situation humanitaire dans plusieurs localités et territoires en province du Nord Kivu reste préoccupante. Il y a des déplacements massifs de populations ça et là et les populations vivent sans assistance. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, en effet, je confirme cette information selon laquelle plus de 30 000 personnes, 35 000 personnes vivent actuellement dans des conditions très difficiles dans le Nord Kivu suite à des déplacements massifs qui ont été occasionnés par la fermeture des camps dans lesquels elles se trouvaient. Alors, des missions de reconnaissance et d'évaluation ont été envoyées sur place et effectivement, il y a énormément de besoins. L'assistance se met en place dans les endroits où on peut accéder, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est une zone dans laquelle se trouve actuellement, il y a actuellement des opérations militaires, donc l'accès pour les hommes militaires est vraiment difficile, si bien qu'il y a des poches à ça et là où on peut intervenir. Mais c'est une situation très préoccupante. Le coordonnateur humanitaire s'est déclaré préoccupé de cette situation et la visite du rapporteur spécial de la semaine dernière s'inscrit dans ce cadre et on espère qu'avant le sommet humanitaire mondial qui se tiendra à Istanbul au mois de mai, des solutions pourront être trouvées, des solutions pour pouvoir trouver quelque chose, des solutions à long terme, des solutions durables afin de permettre de donner un avenir plus brillant, meilleur à toutes ces populations qui sont actuellement en détresse dans le Nord Kivu.
Comment donc pour prendre la deuxième question? Oui.
Vas-y, Sadi. Merci, c'est Sadi qui prend tout ma guérée pour les comptes d'Emmanuel TV. Ma question s'adresse à Madame Floras, toujours les petits questions. C'est par rapport au récent procès de casque bleu tanzanien qui aurait été poursuivi pour violence sexuelle. Alors, ma question est celle-ci. Au-delà des sanctions qui ont frappé le casque bleu, donc à l'air individu propre, on s'est dit, il y aurait aussi d'autres sanctions internes qui devraient frapper les pays en tant que membres aussi des Nations Unies, mais ces sanctions-là n'ont jamais été révélées à la presse. Peut-on avoir une idée par rapport à ça? Merci.
Nous allons prendre cette question effectivement ici à Bukavu. Et il faut dire que pour préciser un peu le processus qui a été lancé, nous n'avons pas encore les résultats définitifs des enquêtes lancées depuis que on nous a signalé sur le terrain qu'il y aurait quelques allégations de violence et d'abus sexuels sur certaines jeunes filles ou dames dans la région de Beni. Les enquêtes se poursuivent non seulement au niveau de la MONUSCO, mais également au niveau du pays, de la Tanzanie notamment. Et nous avons tout de suite, comme vous le savez, au lendemain même de la révélation de ces allégations, dépêché sur le terrain. Et nous tenons à dire ceci. Les sanctions, si éventuellement les faits se sont avérés, les sanctions vont être prises. Et vous savez que dans ce domaine, M. Ban Ki-moon a été très clair. Il y a une tolérance zéro vis-à-vis de ces violences et abus sexuels commis par des casques bleus. Il y a une impunité zéro vis-à-vis de ces mêmes violences et abus sexuels. Et donc, nous sommes sereins. Nous laissons le temps au temps, mais ces résultats, nous les aurons. J'étais encore à Goma il y a quelques jours et j'en parlais avec la responsable de la section conduite et discipline qui, effectivement, encadre ce processus d'enquête et le processus, j'allais dire, autour de ces questions de violence sexuelle. Et elle a été très claire, tout comme M. Maman Sambo Sidikou l'a réaffirmé lors de la retraite dont je vous parlais en début de cette conférence. Il a réitéré devant toute la mission qui ne tolérerait pas ce genre de comportement dans cette mission. Et si les faits sont avérés, les sanctions, comme vous le dites, elles ne sont pas encore prises, mais elles devraient être prises si les faits sont avérés. Et donc, prenez patience, et une fois de plus, nous reviendrons ici à cette conférence de presse, et je l'ai promis en tout cas à vous et aussi aux collègues de la MONUSCO qui étaient avec nous à Goma lors de cette retraite. Il faut qu'effectivement, lorsque les sanctions sont prises, qu'elles soient connues par la presse, parce que souvent la presse nous demande, et les résultats, On vous présentera ces résultats en temps opportun. Retour ici donc à Bukavu pour prendre une question d'abord. On n'a pas beaucoup de questions de femmes jusque-là, donc on a une mère de femme à Bukavu qui va sauver l'honneur, comme on dit. C'est à vous, présentez-vous et puis une question.
Moi c'est Eliane Polepole, je suis de AFEM, Association des Femmes des Médias. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Charles Bambara. Vous l'avez bien dit que le 23 avril dernier, le président du pays s'est rencontré avec Ban Ki-moon. Ils ont essayé un peu d'échanger sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et La MONUSCO encourage la tenue des élections dans le respect de la Constitution et vous encouragez également aussi les dialogues nationaux. Au cas où il n'y a pas dialogue dans le pays, au cas où il n'y a pas élection cette année, est-ce que vous ne pensez pas que ce mandat qui a été beaucoup plus focalisé sur l'accompagnement du processus électoral a été renouvelé pour rien par la résolution 2277 et vos efforts, est-ce qu'ils ne seront pas en vain par rapport à ça? Merci.
La résolution a beaucoup de points essentiels au cours de cette résolution-là. C'est vrai qu'on parle du processus électoral, mais la première priorité que le Conseil de sécurité assigne à la MONUSCO, c'est bien les questions de protection des civils. C'est vrai que c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais c'est vraiment, j'allais dire, le socle sur lequel est bâti de façon fondamentale les actions et la démarche de la MONUSCO. Le deuxième point prioritaire que nous assigne le Conseil de sécurité à travers cette résolution 2277, c'est bien entendu la stabilité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est une aussi priorité de M. Mamman Sambo Sidikou, une stabilité qui doit se décliner sur le plan sécuritaire, donc militaire, mais aussi sur le plan politique. C'est vrai, comme vous le dites, il y a quelques inquiétudes par rapport à ce processus politique qui est en cours dans le pays, mais pour l'instant, vous vous dites au cas où, c'est comme si vous dites si éventuellement, avec des si, on peut mettre beaucoup de villes dans une bouteille, moi je crois qu'il faut donner une chance réelle au processus engagé par l'Union africaine et que toute la communauté internationale soutient fermement. Cela est très clair. Nous avons estimé que c'est par dialogue, c'est par un dialogue consensuel qui devrait aboutir à des résultats consensuels que la feuille de route politique pourrait éventuellement se décider. C'est pour cela que Ban Ki-moon, lors de son passage ici, l'a réaffirmé. La résolution, si j'en prends tout de suite des extraits, réaffirme cela très clairement. Monsieur Mamman Sambo Sidikou appuie fermement Monsieur Edem Kodjo à travers ses bons offices. Il reçoit régulièrement, je dis bien régulièrement, tous les acteurs politiques, de la mouvance présidentielle comme de l'opposition. Je peux vous dire, par exemple, la semaine dernière, j'ai assisté à une réunion au siège de la MONUSCO à Kinshasa, à laquelle étaient conviés les acteurs politiques de la dynamique de l'opposition et du G7. Cela continue, et parce que certains ont l'impression qu'il n'agit pas beaucoup sur le terrain, mais il agit avec en première ligne Monsieur Edem Kodjo, qui est le facilitateur de la communauté internationale que l'Union africaine a désigné. Donc nous espérons que si maintenant on agit, c'est possible encore. C'est vrai que les jours qui passent peuvent un peu mettre quelques doutes à la possibilité de cette tenue, mais les experts peuvent vous dire qu'il y a encore une petite fenêtre d'opportunité où on devrait pouvoir agir rapidement pour pouvoir sauver tout le processus, et nous restons dans cette dynamique quant à nous. Deuxième question, ici est donc à Bukavu, on peut passer maintenant à droite, à gauche du moins. Bon, ici devant peut-être, il y a trois doigts, mais bon. Bon, oui, donnez le micro là, merci.
Merci, je suis Josué Moussole, je suis journaliste à la radio Bukavu, Neno la Uzima. Je disais, je suis Josué Moussole de la radio Neno la Uzima Bukavu. Ma question concerne les drones que la MONUSCO avait annoncés au Nord Kivu et qui seront là pour sécuriser la population. Est-ce que ces drones existent encore? Et s'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Merci.
Je crois que c'est une question militaire, mais on avait d'ailleurs répondu à cette question le mercredi dernier. Peut-être que c'est vrai, vous n'étiez pas connecté, vous, à Bukavu. Les drones existent toujours, ils sont dans les zones opérationnelles du Nord Kivu, j'allais dire du Grand Nord Kivu, parce que ils étaient, c'est vrai, à leur départ basé à Goma, mais au regard de l'intensification de notre réponse militaire en appui au FRDC qui était engagé donc dans des opérations contre les ADF dans cette zone, nous avons déplacé effectivement ces zones qui existent, ces drones qui existent toujours et qui sont donc maintenant dans la zone de Beni Bounia pour appuyer les efforts des FRDC et de la MONUSCO dans la traque des ADF. C'est un outil, c'est pas le seul outil que nous avons, c'est vrai que c'est un outil qui nous donne une capacité, de recueil de l'information militaire qui est capitale pour, les opérations des troupes sur le terrain. Je pense que d'ailleurs, je vais laisser la parole pour voir au colonel Martin si qu'il a quelques autres éléments à ajouter, mais je peux vous confirmer que ces drones sont toujours opérationnels et fonctionnent dans la région du Grand Nord Kivu. Colonel, quelques éléments d'information sur les drones.
Merci Charles. Les drones existent bel et bien et travaillent normalement. La preuve que nous continuons toujours de mener des opérations comme les ADF dans les territoires de Beni, précisément à 12 km est d'Irengeti, sud-est d'Irengeti. Nos drones sont effectivement, comme l'a dit Charles, dans la zone opérationnelle, c'est-à-dire à Bounia, et qui couvrent la zone de Dungu et autres, Bounia jusqu'à Beni. Maintenant, les drones à Goma, c'est pas possible parce que pour les drones, il faut un poste opérationnel, un poste de pilotage. Et nous ne disposons qu'un seul poste de pilotage qui est de l'autre côté. Donc, les drones à Goma, c'est pas pour maintenant. Mais toutefois, dès que les opérations comme les FDRF vont reprendre dans les autres territoires de la province du Nord Kivu, et on fera tout possible pour déplacer les drones ou acquérir les drones pour ces opérations. Merci beaucoup.
Voilà, nous allons revenir ici à vous avant de nous rendre peut-être à Kinshasa, parce qu'on a déjà fait, je crois, deux questions maintenant à Goma. On me signale qu'il est déjà temps pour les auditeurs de Radio Okapi de nous quitter, mais nous allons poursuivre cette conférence de presse exceptionnelle que nous déroulons depuis Bukavu ici. Avec votre permission, nous allons peut-être aller à Kinshasa ou rester ici? Une dernière question ici et puis on ira à Kinshasa. Micro ici, s'il vous plaît.
Ok, merci. Moi, c'est Danny Magage, je suis journaliste à la Radio Kaouzi. Ma question s'adresse au colonel Martin, et qui est à Goma. Il vient de dire que les drones travaillent normalement au Nord Kivu. Pourquoi maintenant cette question des tracts des ADF persiste au Nord Kivu, précisément à Beni?
Colonel, je vous laisse répondre peut-être en deux mots, parce que on a déjà répondu à ça, je crois.
Oui, bien sûr. Tout à l'heure, même dans mon texte, je disais qu'il y a une accalmie à Beni, territoire et Beni ville, et ceci du fait des opérations conjointes MONUSCO-FADC, et que la MONUSCO, la force est intervenue avec ses hélicoptères d'attaque contre les positions de l'ADF dans l'est d'Irengeti. Donc, je ne vois pas la raison de cette question. Je pense que tout va bien à Beni territoire. Merci.
Ok, nous allons partir directement à Kinshasa pour prendre deux questions avant de revenir à Bukavu.
Je vois une dame qui lutte depuis un certain temps là, Kinshasa, pour avoir la parole.
Deux questions.
Oui, madame.
Geneviève Makoulou, King 24 Télévision. J'adresse ma question à Monsieur Charles. Dans le cadre du dialogue, il y a l'Union africaine qui avait recommandé aux facilitateurs de tenir compte aussi des partis centristes, notamment le M23, qui n'a pas été consulté jusque-là. Et au niveau de la MONUSCO, vous tenez coûte que les dialogues se tiennent. Qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre des bonnes offices pour que ces partis centristes puissent prendre part aussi au dialogue?
Vous appelez le M23 un parti centriste? Le M23 n'est pas un parti centriste, à ce qu'ils ne sont pas enregistrés officiellement comme un parti politique. Vous avez parlé du M23.
Je parle de M17. M17. Pas le M23, le M17.
Voilà, mais vous avez dit M23. Voilà. Non, les bons offices du représentant spécial du secrétaire général, M. Sidikou, concernent l'ensemble des partis politiques. Une fois de plus, il ne s'agit pas des grands partis politiques de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, il s'agit bien de l'ensemble des partis politiques. C'est vrai que j'ai donné l'exemple tout à l'heure de la dynamique de l'opposition du G7, etc., mais ils rencontrent effectivement, à sa demande d'ailleurs, pas seulement lorsqu'on le sollicite, mais parfois on le sollicite aussi directement. Et le plus souvent, c'est à sa demande d'ailleurs qu'il rencontre l'ensemble des acteurs politiques pour discuter, pour essayer de trouver un modus vivendi et motiver les gens afin qu'ils s'engagent dans cette voie tracée par la communauté internationale, car il ne s'agit pas seulement des Nations Unies. Vous avez entendu les représentants, par exemple, des grands pays occidentaux comme les États-Unis, la France, l'Union européenne, par exemple aussi, qui appelle aussi les acteurs politiques à essayer de se concerter pour dégager ensemble une voie de sortie de crise. Et c'est ce que nous comptons essayer de poursuivre par l'entremise une fois de plus de M. Edem Kodjo, qui est au centre de ce dispositif et que nous tous, au niveau de la communauté internationale, nous sommes déterminés à appuyer afin qu'il puisse effectivement déboucher lors de ces concertations autour d'une feuille de route qui est satisfaisante pour, en tout cas, la majorité, la grande majorité, nous espérons en tout cas, des acteurs politiques congolais. Voici un peu ce que je peux vous donner comme élément de réponse. Nous restons toujours à Kinshasa pour une autre question.
Oui, venez plus bas. Oui, allez-y. Une seule question, s'il vous plaît.
Merci. C'est Isaac Ngwenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Je pose ma question au colonel Amouzou. Puisque la recrudescence et l'insécurité continuent à prévaloir dans la partie orientale du pays, vous vous êtes exprimé plus d'une fois dans cette conférence de presse en faveur de pourparlers avec entre la MONUSCO et le système de défense de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas, je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà entamé des pourparlers pour la reprise des opérations conjointes? Si oui, où en sommes-nous? Merci.
Colonel, brièvement peut-être, un petit mot, colonel?
Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai jamais parlé de coopération MONUSCO gouvernement. Moi, je parle d'opération conjointe par décès et force de la MONUSCO. Moi, je suis porte-parole militaire, je ne suis pas au niveau stratégique. Toutefois, nous travaillons ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la neutralisation des groupes armés encore actifs dans le pays et protéger la population civile. C'est ce que nous faisons à Beni, et à Bunia, à Dungu et autres localités du Nord Kivu, sinon autres localités de la partie orientale du pays. Merci.
Nous allons peut-être rester à Goma pour prendre une question. Goma, c'est à vous.
Oui, madame.
Merci, je suis Charlie Gassaret. Je suis Charlie Gassaret pour la voix de l'Amérique. Et monsieur Charles, hier nous avons eu des alertes de la population de Moneka dans les territoires de Lubero, soi-disant qu'il y aurait un hélicoptère de la MONUSCO qui a fait atterrir 18 présumés éléments FDLR avec leurs armes. Qu'est-ce que la MONUSCO peut nous dire par rapport à ça? Une réaction de votre part.
Bon, rapidement, une réaction ici avant de laisser la parole au colonel Amouzou. Une fois de plus, je crois que je vous inviterai à vraiment lire de très près ce que dit la résolution 2277 qui couvre tous ces points-là. La résolution 2277 nous donne une seule feuille de route à l'intention des groupes armés, c'est de les neutraliser. On ne peut pas nous prêter d'autres intentions quand il s'agit des groupes armés. Nous n'avons pas autre chose à faire avec eux qu'à les neutraliser. Et d'ailleurs, il me vient à l'esprit cet article de la résolution qui dit « Le Conseil de sécurité réaffirme qu'il est essentiel de neutraliser durablement les FDLR si on veut offrir stabilité et protection à la population civile de la RDC et de la région des Grands Lacs, et rappelle que les FDLR sont un groupe soumis à des sanctions imposées par les Nations Unies et dont les dirigeants et les membres comprennent des auteurs du génocide de 1994. Donc comment voulez-vous que la MONUSCO s'associe à ce genre de groupe? Ce groupe est condamné par les Nations Unies. Ce groupe est un groupe criminel qui a fait de nombreuses exactions dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils pillent, ils tuent, ils violent, ils détruisent les villages, ils détruisent les récoltes. Et comment voulez-vous que les Nations Unies la MONUSCO puisse s'associer à un groupe comme ça. Je crois qu'il faut être clair. Ça, c'est des affabulations. Il s'agit réellement de fausses accusations, une fois de plus, contre nous. Mais je suis sûr que le colonel Amouzou, qui est plus sur le terrain là-bas au Nord Kivu, a quelques éléments de réponse pour compléter ma réponse ici. Colonel, c'est à vous.
Merci, Charles. Merci à tous. Effectivement, nous avions eu l'information et nous avions procédé à la vérification de l'information. Nous avions vérifié nos programmes de vol de la journée du lundi, c'est-à-dire bien du lundi 25 avril. Nous avons vérifié vraiment, nous avons la certitude que les informations telles que présentées sont fausses. Et nos hélicoptères n'ont transporté aucune personne étrangère à la MONUSCO dans la journée du 25 avril dans ces localités. Et toutefois, la MONUSCO a été mandatée pour neutraliser en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo tous les groupes armés, y compris les FDLR. Donc je ne vois pas pourquoi la MONUSCO se hasarderait à fournir, je ne sais pas quoi, à ce groupe d'armées contre la population civile. Merci beaucoup.
Nous allons peut-être revenir ici à Bukavu, mais je veux vous dire, aux journalistes de Bukavu, c'est vrai que vous avez vos cafés de presse, mais vous avez vos responsables ici de la MONUSCO qui attendent vos questions, le responsable droit de l'homme, le responsable justice. DDR est là, donc il faudrait bien leur poser une autre question. Le micro, je crois que le jeune homme à la caméra est insistant. Je veux voir si sa question vaut un pesant d'or, comme on dit. Non, ça, c'est bon. Présentez-vous et une question, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, c'est Bertin Mongombe de Trotami Bukavu. La question, c'est en rapport avec la liberté de la presse. En République démocratique du Congo, nous sommes cotés parmi les mauvais élèves sur les respects de la liberté de la presse. Que pense la MONUSCO dans la protection particulière des journalistes, surtout en cette période, je vais dire, électorale, ou cette période des dialogues, s'il y aura au moins élection ou dialogue? Merci.
Je vais laisser la question à Monsieur José Maria Arnaz du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme qui est à Kinshasa. Monsieur José Maria Arnaz, c'est à vous.
Merci beaucoup et merci pour une très bonne et très pertinente question. Moi-même, je me posais la question pourquoi vous n'avez pas beaucoup des autres fois, pourquoi vous n'avez pas de questions sur la question de la liberté de la presse, mais peut-être que ce n'est pas une question relevante. Nous ne faisons pas les index de liberté de la presse, mais il y a des autres organisations spécialisées qui ont enregistré de manière spécialisée toutes les violations de liberté de violations de liberté de la presse et liberté d'information. Et pour nous, c'est inquiétant l'information qui dit que de l'année passée, il y avait 60 journaux, 12 stations de radio, et 5 de télévision qui n'étaient fermées. Et ça, c'est le rapport des rapporteurs sans frontières. Nous avons déjà constaté que la répression de la liberté de la presse, c'est une des constantes qu'on a enregistrées dans notre rapport. Et ça, c'est... Et notre message, c'est clair. On ne peut pas avoir les élections crédibles sans une liberté d'information et une liberté de la presse pour tout. Alors, c'est une des questions essentielles pour le processus électoral et on espère que l'ouverture de l'espace politique de manière suffisante pour les élections va inclure aussi un espace adéquat pour les collègues de la presse pour faire son travail très important. Tout ça, on a reçu l'information même les jours après avant-hier de 2 journalistes qui ont été arrêtés, je ne me rappelle où, mais c'est une constante de violation qui nous préoccupe. Et on espère que vous aurez des espaces suffisants pour faire votre travail très important. Merci.
Nous allons peut-être demander, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Mamadou Saliou Diallo, qui est le responsable ici à Bukavu de la section du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ici dans la province. Quelle est l'importance ou quel est l'état de la situation des violations des libertés de presse ici? En deux mots, pas trop long.
Alors en fait, donc je suis Monsieur Diallo Mamadou, responsable du BC Nulias Bukavu, et j'ai en face de moi des interlocuteurs avec lesquels on a beaucoup travaillé. Et vous savez que le Sud Kivu est la province précurseur ou précurseuse, je sais pas, d'un édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Et nous avons fait ce combat depuis 7 ans, depuis que le bureau est là. Nous nous sommes battus pour qu'au niveau de la province du Sud Kivu, il y ait une loi provinciale qu'on appelle un édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Nous avions inclus les journalistes. Pourquoi? Parce que c'est une préoccupation pour nous. On sait que dans le passé, ici, dans le Sud Kivu, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux journalistes, et des journalistes qui ont même été tués. Et à cause de cette situation, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un édit portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Et Dieu merci, le 10 février dernier, l'édit a été promulgué par le gouverneur de la province du Sud Kivu, et tous les journalistes, toute la presse a été informée, et nous avons fait un atelier de vulgarisation de cet édit, et vous l'avez tous bien accueilli, et nous avons eu un café de presse avec vous, où nous avons donné toutes les péripéties, tous les combats qu'on a menés depuis 7 ans, et le résultat qui a été probant. Merci.
Merci. Nous allons rester ici à Bukavu pour prendre une dernière question avant de donner la parole quand même à Kinshasa pour une autre question. Venez à côté le micro, on va voir. Présentez-vous et puis une question.
Ok, je me présente. Ma question, en fait, moi c'est Didier Bayindwa. Je suis de la radio universitaire User Bukavu, partenaire à Fondation Hirondelle et dans le programme PDSM. Alors ma question va s'adresser à Charles Frusmi. Voici ma question. La personne du facilitateur Eden Kodjo pose encore problème pour certains partis de l'opposition. Et tout récemment, l'opposant Clément Kankou a demandé une intervention du chef de la MONUSCO pour faciliter la convocation du dialogue. Alors je me demandais aussi, je crois que c'est toute la population du Sud Kivu qui pourrait se demander ça, quelle intervention pourrait être de la MONUSCO, là je parle du représentant Maman Sidikou, ou carrément comment est-ce nécessaire que cette intervention rassure la participation ou les participants au dialogue?
Bon, c'est pas très clair comme question, mais on a déjà répondu à cette question-là. J'ai déjà répondu à ça, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, on a parlé de... un des collègues a effectivement évoqué ça tout à l'heure, sur justement quel est le point de vue de la MONUSCO, l'appel lancé par le député Kankou. Mais quant à comment ça se traduit dans la province du Sud Kivu, personnellement, comme j'ai dit, la question n'était pas tellement bien ficelée. Si vous voulez la préciser rapidement.
Non, la précision, c'est juste comment serait l'intervention de la MONUSCO par rapport au dialogue. Et là, je suis en train de voir le parti qui sont encore opposants au dialogue. Parce que vous parlez, que vous soutenez le dialogue, mais concrètement, comment ça va être cette intervention-là?
Le dialogue a pour, maître d'œuvre l'Union africaine et qui a comme facilitateur Eden Kodjo, c'est clair. L'ensemble de la communauté, je l'ai répété à plusieurs fois ici, internationale soutient ce dialogue. Et j'ai dit qu'en filigrane, M. Maman Sambo Sidikou avait énormément de rencontres. C'est vrai en background parce qu'il faut qu'il soutienne. La communauté internationale est d'accord pour que ce soit M. Eden Kodjo. Nous apportons notre soutien et toutes les rencontres que fait M. Maman Sambo Sidikou va dans ce même sens. Comment rassembler les acteurs politiques congolais autour de cet objectif qu'est le dialogue national? Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et justement, en diplomatie, justement, l'un des objectifs, quand il y a des difficultés, c'est de d'œuvrer en de telle sorte qu'il y ait, je vais dire, de façon consensuelle, une sorte d'agrément, de rassemblement autour d'un point de vue donné, d'un projet donné. Si cela arrivait, tant mieux. Mais une fois de plus, c'est à la classe politique de prendre son destin en main, de prendre son avenir en main. Et nous, communauté internationale, nous sommes déterminés à appuyer ce processus qui a été dicté une fois de plus, non seulement par le secrétaire général des Nations Unies, mais aussi par la résolution 2277. Je peux vous lire d'autres extraits. Vous allez voir que le Conseil est clair. Il dit, par exemple, ici, le Conseil souligne l'importance d'un dialogue véritable pour que les élections présidentielles et législatives soient pacifiques, crédibles et conformes à la Constitution, et appuie la décision de l'Union africaine d'engager donc les consultations sur ce dialogue, et demande enfin instamment à toutes les parties prenantes au niveau national de coopérer avec l'Union nationale pour cet égard. Donc vous voyez, la communauté internationale est claire. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a des tergiversations autour de cette question oui ou non, mais une fois de plus, la responsabilité incombe aux leaders politiques congolais afin qu'ils puissent dessiner cette feuille de route politique. Nous, au niveau de la communauté internationale, nous sommes déterminés à jouer notre partition pour que cela puisse se réaliser. Nous allons peut-être prendre une toute dernière question à Bukavu avant de clore, parce que d'habitude on peut prolonger de 5 minutes, enfin 10 minutes, 15 minutes, mais bon. Une dernière question, qui veut la poser? J'ai pas le micro moi, on peut vous donner le micro rapidement?
C'est Honneur Safari des Radio Sven, un regroupement des organisations de la société civile appelé Consortium Société Civile R2277 demande l'organisation d'une période de transition ne dépassant pas un an et demi, dirigée par une personnalité de la société civile, au cas où les élections ne seraient pas organisées dans les délais constitutionnels. Comment d'abord vous accueillez ces consortiums et leurs propositions en tant que Monisco?
Ma feuille de route est donnée par le Conseil de sécurité, par Ban Ki-moon et par les consortiums. On est désolé, au niveau de la Monisco, si nous devons écouter les consortiums, on ne s'en sortirait pas. Il y a une feuille de route qui a été établie, qui est claire, et qui dicte un peu la position des Nations Unies, je ne dirais pas de la Monusco, des Nations Unies en général, par rapport, j'allais dire, au processus politique à l'heure actuelle. Et nous allons nous conformer à cela. Pour le reste, on empêche quiconque de donner son point de vue par rapport à ce processus. Ça doit être un débat interne, national, entre les politiciens de ce pays. Pour nous, nous avons une feuille de route qui est claire et nous allons la défendre, j'allais dire, scrupuleusement. Kinshasa, peut-être une dernière question avant qu'on boucle cette conférence de presse à Kinshasa, c'est à vous.
Il y en a, apparemment, je ne vois pas de main levée ici. Ah, il y a une question succincte, claire et précise, s'il vous plaît.
Pain Katumba, pour le compte de l'explorateur, j'ai une préoccupation à Madame Florence. Madame Florence, la vaccination en RDC par le biais de l'UNICEF, c'est une bonne chose. Est-ce que réellement les statistiques qui révèlent, car en RDC, les enfants naissent chaque instant, chaque jour. Est-ce que les statistiques sont réelles pour nous dire exactement si la vaccination que vous donnez en RDC est réelle? Je vous remercie.
Oui, ça, je vous renvoie à l'annonce que j'ai faite au début de cette conférence de presse. Donc vous le savez, on célèbre la semaine mondiale de la vaccination et les campagnes de vaccination engagées par le gouvernement de la RDC avec le soutien des partenaires, notamment de l'UNICEF, ont vraiment des résultats positifs, puisque on a enregistré une réduction importante du taux de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et une fois encore, entre 2007 et 2014, on est passé de 148 décès pour 1000 naissances vivantes à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. Ce qui signifie que si le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est en diminution, c'est une des conséquences directes de l'accroissement de la couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire. Évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais dans le cadre du programme élargi de vaccination, les vaccins sont disponibles, on travaille beaucoup sur le renforcement de la chaîne du froid et surtout sur l'accès des vaccins à tout le monde, y compris dans les zones les plus reculées de la République.
Merci donc à Florence pour cette réponse. Fin de cette conférence de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à Kinshasa, Goma et Bukavu, et à la semaine prochaine.